Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier une grande recherche sur le plan Nord. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que le plan Nord en bref?
Ben, à vrai dire, le plan Nord, c'est un plan sur 25 ans qui est un plan de développement, on dit, régional du Nord. Donc, on pense installer des nombreuses mines et développer le Nord à travers l'industrie minière. Ce qu'on réalise cependant, c'est que c'est avant tout un plan d'extraction minière et pas nécessairement un plan de développement économique régional. Il s'agit finalement de 82 milliards de dollars d'investissement d'Hydro-Québec, de l'industrie privée et du gouvernement pour développer des mines, développer l'industrie forestière à petite échelle et aussi développer à très petite échelle l'industrie d'agriculture.
OK, et ce que j'ai remarqué, c'est que vos prédictions sur le plan Nord divergent beaucoup de ceux du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce qui en était le plus frappant?
Ben, à vrai dire, on a sorti notre note avant le budget. Donc, évidemment, il y a certaines choses qu'on avait démontrées, comme par exemple que le plan Nord serait déficitaire. Cependant, avec le budget présent, on a pu remarquer que notre hypothèse était valide, mais on ne peut pas la prouver pour l'instant. Donc, ce qu'on dit dans notre étude qui vaut la peine d'être retenu, à mon avis, c'est que présentement, le gouvernement Charest ne tient pas compte des nombreux coûts qui viennent avec un boom minier ou un boom en ressources naturelles. Donc, évidemment, quand il y a un boom minier, il y a une augmentation de la population très importante. Évidemment, cette augmentation de la population va faire qu'il y a plusieurs coûts en santé, en éducation, en services sociaux qui doivent être assurés pour éviter des problèmes tels que, par exemple, une baisse de la santé au Québec ou, par exemple, une augmentation des coûts sociaux, comme une hausse du crime, par exemple, en région.
Et vous avez en fait vous faites une comparaison entre Fort McMurray en Alberta et son boom après le développement minier et le futur possible du territoire qui est visé dans le plan Nord. Qu'est-il arrivé à Fort McMurray et est-ce que le plan Nord mènerait forcément à une situation similaire?
Ben nous, on étudie le cas de Fort McMurray parce que c'est le dernier cas type d'un boom en ressources naturelles au Canada. Donc, on sait par exemple que par exemple, il y a eu une augmentation de la population de 186 % qui sont dues à l'extraction du pétrole provenant des sables bitumineux. Donc, évidemment, il y a une augmentation de la population. Les coûts en infrastructure ont augmenté de 1,2 milliard sur 5 ans. Annuellement, la municipalité demande 300 à 400 millions de dollars pour subvenir à des problèmes, puisque le coût de la vie a augmenté énormément. Vous savez, Fort McMurray est la quatrième ville la plus dispendieuse au Canada. C'est une ville qui a un taux de crime qui est beaucoup plus élevé que la moyenne canadienne et évidemment albertaine. Donc, présentement, ces coûts-là doivent être considérés. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que pour éviter ce type de problème-là, il faut déjà que le gouvernement québécois pense à investir de l'argent en santé, en services sociaux, par exemple, en garderie, par exemple, dans des services de santé, d'agrandissement d'hôpitaux. Donc, on chiffre ces coûts-là à près d'1,7 milliard de dollars. On sait aussi qu'il va falloir augmenter les coûts de construction de routes et évidemment entretenir les routes qui, par le passé, n'étaient pas aussi passantes qu'ils vont l'être, surtout si on prend un réseau de transport de minerais. Donc, on pense que ces coûts-là vont être de 1,5 milliard de dollars. Il y a aussi des crédits d'impôt que l'industrie va recevoir et il va avoir des coûts de réhabilitation. Donc, au total, on pense que l'ensemble des coûts vont être de 6,15 milliards de dollars. Est-ce que ça veut dire que le Québec, les villes comme Fermont ou les villes du Nord vont nécessairement devenir comme Fort McMurray? On pense que pas nécessairement. Nous, pour faire nos suppositions, on n'a pas pris l'exacte augmentation de la population parce qu'on pense que les conditions sont différentes. On pense que, par exemple, déjà, le Québec a des meilleurs services sociaux que l'Alberta, donc il y a des coûts qui vont être différents. Cependant, il faut faire attention parce que c'est exactement le genre de problème qui arrive. Surtout si on considère que présentement, le plan Nord ne propose pas de développement régional. Donc, ce qu'on fait normalement pour avoir une économie qui va permettre aux régions de prospérer, il y a effectivement de l'extraction de ressources naturelles, mais il y a une deuxième partie qui est la transformation. Donc, c'est ça qui crée le plus d'emplois et aussi qui permet de donner une vie sociale, en quelque part, à la municipalité. Présentement, le plan Nord ne vise pas à faire de la transformation de minerais, mais bien plutôt de faire de l'extraction. D'ailleurs, récemment, ils ont pris la décision assez surprenante de ne pas garder une réserve de diamants comme, par exemple, l'Ontario le fait. L'Ontario récupère 10 % de tous les diamants qui sont pris sur le territoire de l'Ontario et le donne en transformation à des diamantiers de l'Ontario. Québec a refusé de prendre le même système quand même le directeur de la Bourse de l'Ontario, qui ne doit pas être la personne la plus socialiste au monde, dit que c'est complètement fou.
OK. Est-il possible que le gouvernement atteigne les buts qu'il s'est fixés pour la protection environnementale du territoire? Quel rôle joue la priorisation de l'activité minière là-dedans? Et quel impact aurait-il pour les territoires protégés qui se trouveront près de cette activité minière?
Il serait étonnant que le gouvernement réussisse à protéger 50 % du territoire du plan Nord, ce qui est prévu. Pardon. Et donc, on sait déjà qu'il y a un 20 % qui va être protégé. On connaît les territoires, ils vont être protégés, on le sait, pour commencer. Par contre, il y a un autre 30 % qui va devoir être protégé par la suite, qui n'est pas encore délimité. Mm-hmm. Ce 30 %-là peut rouler dépendamment des besoins. C'est-à-dire que l'industrie minière, on est sous la loi du free mining, donc l'industrie minière pourrait décider qu'un territoire qui est protégé ou qui devrait être protégé a un potentiel minier, et donc que ce potentiel-là doit être exploité, et donc on ne pourra pas protéger celui-là. Donc on pourrait très bien avoir à protéger des territoires qui ont déjà exploité, qui le seront plus tard. Donc il y a un 30 % de protection des aires protégées qui ne tient pas vraiment la route dans le plan Nord présent.
OK. Et combien d'emplois créerait le plan Nord? Et est-ce que la création de ces emplois justifie la mise sur pied du plan?
Bien, le plan Nord prévoit présentement 20 000 emplois. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que c'est des emplois qui sont particulièrement liés à la valeur boursière du minerai. Donc, normalement, et finalement, dans la période présente où les minerais ont un prix intéressant sur les marchés, c'est une industrie qui est florissante et qui est intéressante. Cependant, on sait que sur une période de 25 ans, il y a des hauts et des bas à cette économie-là qui est très, très proche des emplois. Donc, évidemment, si la valeur du minerai diminue, les emplois vont diminuer aussi. De plus, à long terme, ce serait étonnant qu'on crée autant d'emplois parce que l'industrie minière est une industrie qui se mécanise de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus d'emplois qui sont occupés par des machines, ou qu'on utilise des machines que par le passé où on utilisait des personnes pour extraire. Par exemple, pour vous donner une idée, il y a eu une augmentation, il y a une perte de 26 % des emplois dans le passé qui sont dus à cette mécanisation sur les dernières années. Donc, évidemment, c'est pas une industrie d'avenir présentement, l'extraction minière.
OK. Et étant donné tout ça, selon vous, est-ce que le plan Nord est vraiment dans le meilleur intérêt des contribuables ou même du budget gouvernemental? Et à la fin, qui va tirer les bénéfices du plan?
Présentement, l'impression que le plan Nord nous donne, c'est que c'est avant tout un plan qui va favoriser l'industrie. Et c'est en bonne partie, une part, les contribuables qui vont prendre des risques, mais surtout le gouvernement à travers, entre autres, la Caisse de dépôt et à travers, entre autres, les investissements Québec. Donc, l'épargne des Québécois qui va servir, entre autres, à financer le plan Nord, qui est un plan qui, pour le moment, ne permettra pas au Québec d'être aussi intéressant que ce que le gouvernement Charest tente de nous de faire croire.
OK. Et comment est-ce que tout ça est justifié par les politiciens? Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus?
Bien, évidemment, les politiciens voient miroiter des redevances importante, espère en tirer beaucoup d'argent. Cependant, ce qu'on voit, c'est que sur 25 ans, on va recevoir au total de redevances, de retombées fiscales, là, que ce soit, par exemple, l'impôt des particuliers ou des industries, un total de 14,2 milliards de dollars, ce qui représente, là, si on le prend sur une base annuelle, à peine 0,8 % du budget des dépenses du Québec. Donc, c'est pas la mer à boire. Là. On parle pas ici, on va pas payer le service de santé avec ça. Donc, c'est pas non plus c'est pas non plus une manne. On va pas faire tant d'argent avec ça, de un. Mais évidemment, ça donne l'impression qu'on crée des emplois dans le Nord. Mais le problème, c'est qu'on n'en crée pas réellement. On fait juste d'extraction. C'est un plan qui va marcher sur 25 ans, aller chercher créer un peu d'emplois, c'est sûr. Mais qui n'est pas réfléchi pour maintenir ces emplois-là et qui n'est pas réfléchi pour que les villes qui vont être touchées par le plan Nord puissent, à long terme, se développer correctement.
OK. Et si vous pourriez dessiner un nouveau plan pour remplacer, ou si vous pourriez changer le plan Nord, qu'est-ce que vous changeriez? Est-ce que vous poursuivrez avec ou juste l'abandonner tout simplement?
Ben pour ma part, c'est sûr que je me suis donné le mandat de regarder les coûts du plan Nord. Mm-hmm. Ce qui serait d'en préparer un autre, je vous dirais que je ne suis pas allé à ce niveau-là, mais ce qui est certain, c'est que je m'assurerais que l'industrie privée prenne une bonne part des investissements. Parce que présentement, on a cette impression que les Québécois, à travers leur retraite, vont financer en bonne partie, et à travers Hydro-Québec, une bonne partie, le plan Nord. Et à ce niveau-là, malgré qu'il y ait, par exemple, des contestations de certains projets, comme par exemple la Romaine, qu'à travers le plan Nord, on légitimise, mais qui pourtant n'est pas encore un projet qui est accepté par l'ensemble de la population. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de s'assurer que la population est d'accord avec le plan.
OK. Et comment était-elle reçue par le gouvernement, votre recherche?
Ben, écoutez, je vous dirais que ça a été mal reçu, dans le sens où le gouvernement réagit très rapidement à notre étude. Mm-hmm. Par contre, pour nous, ça m'aurait étonné qu'ils sautent de joie à l'avoir.
Ouais.
Étonnamment. Mais cependant, je pense que elle a fait assez de chemin pour pouvoir donner une idée à l'ensemble des Québécois de qu'est-ce que c'est le plan Nord et qu'est-ce que ça peut coûter à moyen et long terme.
OK. Et puis, ils peuvent faire leur décision eux-mêmes là-dessus.
Mm-hmm. On peut dire quand même une dernière chose, mm-hmm. c'est que dans les programmes, les projets qui sont pas discutés par la population québécoise et qui sont des projets environnementaux importants, le gouvernement donne son aval juste en créant le plan Nord. Comme par exemple, on sait que dans le coin du Mont Otis, il y a des mines d'uranium qui vont peut-être être exploitées. Il y a des terres arables qui sont des terres avec des minerais pour faire des nanotechnologies qui vont être exploitées. Et ça, on n'a pas fait le débat au Québec si on veut vraiment, par exemple, extraire de l'uranium au Québec. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on veut faire? Et présentement, avec le plan Nord, on assume d'emblée que oui, on veut le faire, et sans même en discuter avec la population, sans même en faire un débat de société.